Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez sur Art District pour une nouvelle bulle d'histoire. Je suis aujourd'hui avec Isabelle Detang, qui est une autrice de bande dessinée, une dessinatrice, une scénariste. Mais on va commencer par la question rituelle des bulles d'histoire. Isabelle, qui es-tu ?
Qui je suis ? C'était assez bien résumé. Je suis effectivement une autrice de bande dessinée avant tout. C'est-à-dire que j'aime et je fais à la fois l'histoire et le dessin, ainsi que très souvent la mise en couleur. Je travaille majoritairement toute seule, c'est-à-dire que je prends en charge la création d'un album et d'une histoire de A à Z. Et j'adore ça.
On se parle aujourd'hui pour parler de deux magnifiques albums parus aux éditions d'Argo. Le titre, c'est Le Roi de Paille, donc c'est une histoire en deux tomes. Le Roi de Paille, c'est une histoire qui commence dans l'Égypte ancienne. Je crois que c'est ton septième ou ton huitième album sur l'Égypte ancienne.
Oh non, c'est pire que ça.
Plus que ça encore.
Non, je me suis spécialisée, on va dire, sans vouloir vraiment, dans des histoires qui se passent dans l'Égypte ancienne, parce que au bout du compte, c'est une civilisation qui me passionne. Je ne suis pas tombée dedans quand j'étais petite. J'adorais toujours tout ce qui a trait à l'histoire, mais c'est de fil en aiguille, parce qu'à un moment donné de ma carrière, je cherchais à mettre en scène une héroïne dans le monde antique et à respecter une certaine véracité historique, et donc ça éliminait des civilisations comme la civilisation gréco-romaine où les femmes étaient des mineures. Moi, j'avais besoin d'une héroïne qui aille partout, qui ait les mêmes droits que les hommes, qui soit une maîtresse-femme en quelque sorte, et c'est l'Égypte qui s'est imposée comme la civilisation où je pouvais faire évoluer ce genre de personnage. Et de fil en aiguille, je me suis passionnée pour cette civilisation, j'ai appris beaucoup, j'ai travaillé avec des égyptologues et finalement je retombe toujours dedans. C'est-à-dire que même lorsque je fais un album sur une autre partie de l'histoire ou sur un autre thème, l'album suivant finalement sera un album sur l'Égypte.
Quand on lit Le Roi de Paille, on voit que tu es extrêmement précise, extrêmement documentée sur tous les costumes, sur les décors, sur les coutumes de l'Égypte ancienne. Tu remercies aussi, je crois, deux ou trois chercheurs qui t'ont conseillé, ou en tout cas qui ont relu tes planches. Comment se passe la relation entre des chercheurs, des universitaires et une dessinatrice de bande dessinée sur l'Égypte ?
Alors, aujourd'hui, ça se passe extrêmement bien. Il faut bien avouer que ça s'est fait progressivement, c'est-à-dire que lorsque j'ai commencé en 2000 sur les terres de Russes, j'ai cherché à joindre assez naïvement en fait des égyptologues, que ce soit au musée du Louvre ou ailleurs, et évidemment ça a été extrêmement compliqué parce qu'ils ne me connaissaient pas et ils avaient autre chose à faire que de répondre à mes questions. Mais ce sont aussi des personnes qui aiment beaucoup collectionner tout ce qui a trait à leur spécialité. Et c'est lorsque j'ai sorti ce premier album des Terres d'Horus que j'ai retrouvé dans ma file d'attente pour les dédicaces des égyptologues. Et on a commencé à converser, etc. Et je suis repartie avec leur carte de visite. Et à partir de là, ça s'est donc fait naturellement, c'est-à-dire qu'ils étaient très contents de pouvoir répondre à mes questions. Moi, j'étais très contente d'avoir enfin des appuis scientifiques, on va dire. Parce qu'il faut bien penser qu'en 2000, au niveau de la documentation, c'était un peu compliqué. On n'avait pas encore beaucoup de documentaires avec des reconstitutions en 3D. On avait, au niveau Internet, c'était pas aussi complet qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup en croisant des informations sur Internet. Donc, il y avait, bon, à part aller sur place, ce qui n'était pas toujours possible, c'était assez compliqué. Maintenant, c'est beaucoup plus simple et on a une masse d'informations, que ce soit avec les égyptologues, mais aussi grâce à certains sites spécialisés qui se sont créés ou grâce aux musées avec lesquels j'entretiens de très bonnes relations. J'entretiens de très bonnes relations avec les conservateurs des 10 musées. Tout ça aide beaucoup.
Alors il y a une dédicace, enfin il y a un remerciement qui est à Monsieur Alain C'est pas grave Charon dans ton premier oui. volume. Ça m'a intrigué ça. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que comment dire? J'interprète. Je fais de la fiction. Je fais de la fiction historique. J'essaie de m'approcher d'une certaine réalité, mais qui peut être aussi contredite par de nouvelles découvertes, parce qu'on est les chercheurs sont toujours en train de réinventer l'histoire passée en fonction des découvertes qu'ils font. Et donc quand je ne sais pas ou quand on a découvert des choses qui viennent contredire, j'ai donc cet égyptologue qui me dit c'est pas grave Isabelle, c'est pas grave, on suit l'histoire, c'est très bien.
Oui, il y a une part d'interprétation de l'histoire forcément.
De toute façon, c'est-à-dire que l'égyptologie, ça a été aussi clairement la vision de notre civilisation à un instant T sur une autre civilisation. Au 19e siècle, on imaginait l'Égypte avec des harems parce qu'on ne concevait pas que la femme puisse être une femme libre. On imaginait qu'il y avait des esclaves parce qu'on se référait à la Bible. On sait aujourd'hui que l'Égypte, même si elle a pratiqué l'esclavage, ce n'était pas du tout la même chose qu'à Rome ou qu'en Grèce. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont des clichés qui nous viennent de l'interprétation des gens du 19e ou du début du 20e.
Pour parler du roi de paille maintenant, on est donc en Égypte au 6e siècle avant Jésus-Christ. Tu vas faire tu vas faire voyager tes deux héros, donc une héroïne et un héros de l'Égypte, jusqu'à Babylone, donc les deux grands empires du moment, des empires à la fois extrêmement civilisés, extrêmement fins, extrêmement cultivés, qui ont produit de la littérature, de la peinture, enfin de la pensée, beaucoup de choses. Mais c'est aussi des moments, une sorte de, on peut dire de barbarie, en tout cas, c'est un peu des âges à la fois très éclairés et très sombres. Le premier événement qui arrive, c'est la pratique de l'inceste au sein des familles égyptiennes, en tout cas de la famille royale égyptienne. Est-ce que tu peux nous raconter le tout début de l'histoire pour donner envie aux auditeurs de le découvrir? Et comment tu rentres dans cette histoire?
Alors déjà, juste un aparté, l'inceste dans les familles égyptiennes lambda, ça n'existe pas vraiment. Ça existe dans les familles royales, mais dans des conditions assez précises. C'est-à-dire que lorsque le pouvoir royal est un peu affaibli, on peut marier un demi-frère et une demi-sœur, par exemple, pour renforcer, surtout quand la grande épouse royale n'a pas donné de fils, par exemple, mais des filles. À ce moment-là, on va marier le fils d'une concubine avec sa demi-sœur pour qu'il y ait légitimité. Ensuite, entre les pères et les filles, ça a existé, effectivement, Ramsès l'a pas mal pratiqué. Maintenant, il y a surtout une dimension religieuse, puisque la fille de la grande épouse royale est détentrice d'un pouvoir divin. Donc, c'est une union qui est sacrée. Voilà. Donc, on n'est pas du tout dans un inceste normalement tel qu'on l'imagine aujourd'hui. Mmh. Il y a des raisons précises, des raisons religieuses. Le souci, c'est qu'effectivement, dans mon histoire, le pharaon n'a aucune raison religieuse de s'amouracher, on va dire, de sa fille. C'est simplement qu'il a manifestement des penchants incestueux, comme ça peut arriver. Et donc, à partir de là, je mets en place une situation qui conduit la jeune fille, la princesse, à vouloir s'évader, on va dire, de la vie dorée qu'elle avait jusqu'à présent au sein de la famille royale, au sein du palais. Et il se trouve que son demi-frère, hein, qui est le je ne sais plus combienième de la lignée et qui sait qu'il n'accédera jamais au trône, donc son demi-frère a envie de voir le monde. Le problème, c'est que comme ce sont des enfants royaux, ils sont un peu confinés au palais. Donc lui décide d'aller pourrir le monde sans le dire à personne. Et elle y voit le moyen de se soustraire à l'inceste qui la menace. Et tous les deux s'en vont très naïvement de par le monde et finissent très très vite dans les filets de marchands d'esclaves, pour le coup, qui sont des marchands mésopotamiens, puisque l'esclavage se pratiquait à Babylone.
Donc ils sont à la fois naïfs.
Est-ce que ça va au niveau de mon résumé?
Oui, c'est très bien. On va pas tout raconter, parce que moi je trouve que la fin est absolument géniale. Donc il ne faut surtout pas la raconter. le deuxième.
Ah non, il faut pas d'ailleurs dans le bouquin. Le mieux, c'est de ne pas feuilleter. Moi, quand je le dédicace, je dis à la personne, surtout, vous ne regardez pas les dernières pages.
Mais la deuxième partie du deuxième volume, enfin, tout est génial, mais ça, le scénario est absolument envoûtant, parce qu'on est surpris non-stop, et les bras t'en tombent, tellement c'est original et puissant. Donc, je ne raconterai surtout pas la fin, mais on va avancer un peu dans l'histoire. Parce que ces deux jeunes gens, en fait, à eux seuls, ils vont carrément subvertir l'ordre égyptien, même si, évidemment, ils le font pas, puisque l'Empire est beaucoup plus puissant qu'eux. Mais c'est une révolte qui est finalement très du XXe siècle.
Elle est très du XXe siècle parce qu'elle est individualiste, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est la revanche de l'individu sur le système. Dans ces genres de civilisations, on pouvait aussi se penser comme faisant partie d'un groupe, d'une nation, mais surtout d'un groupe, et donc subir les contraintes de ce groupe. Or, les deux héros auxquels je fais référence dans ce bouquin-là vont chacun à sa manière essayer de s'extraire de cette pression du groupe pour se forger un destin qui, au départ, n'était pas celui pour lequel... auquel il rêvait, en quelque sorte.
Il y a un autre personnage, mais on va en parler un peu plus tard, qui est l'héritier du royaume de l'Empire de Babylone, qui est, je trouve, un magnifique personnage de bande dessinée, de roman. Enfin, c'est vraiment un très très joli personnage. Mais avant d'arriver donc à parler de Hamel, il faut qu'on parle de l'Empire babylonien et de ce qui fait le titre de cet album, donc Le Roi de Paille, qui est une cérémonie absolument terrifiante. On peut le dire, il n'y a pas d'autres mots, qui se passe à Babylone, qui est la deuxième étape de ton scénario, qui fait avancer l'histoire et on comprend ce qui va se passer. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qu'est cette cérémonie du roi de paille, et à quel moment et pourquoi elle est mise en route, et qu'est-ce qui arrive à ce fameux roi de paille?
Alors, cette cérémonie, effectivement, moi j'en ai entendu parler en lisant un dictionnaire sur la civilisation mésopotamienne. Et c'est vrai que sur le coup, quand j'ai lu ça, les bras m'en sont un peu tombés. Je me suis dit ça vaudrait le coup d'en faire un scénario. Et donc, la chose est très simple. Normalement, l'Empire mésopotamien, enfin la Mésopotamie, ne pratique pas vraiment les sacrifices humains. Sauf dans ce cas, qui est attesté à plusieurs reprises, les Babyloniens sont des gens qui croient aux étoiles, qui croient aux présages. Et donc, lorsque les étoiles sont dans un alignement défavorable, elles risquent de menacer le roi. Et en menaçant le roi, elles risquent de menacer le royaume. C'est-à-dire que pour que le royaume survive, il faut absolument contrer ces malédictions à venir. Et dans ces cas-là, ils avaient comme coutume, de cacher le roi. Ils prenaient même un autre nom, c'était plus le roi machin chose, en l'occurrence le roi Nabucodonosor, mais ils l'appelaient le jardinier, et ils le planquaient, ils mettaient à la place du roi un roi de paille, qui était soit choisi parmi les esclaves ou parmi les prisonniers politiques. Ça allait très loin, ça allait même jusqu'à lui trouver une reine de paille. Alors j'ai évacué le motif de reine de paille parce que sinon il fallait 3 volumes. Mmh. Et pendant le temps de la malédiction, le roi de paille restait en place afin de tromper les dieux et de tromper les étoiles. Il prenait sur lui toute la charge de la malédiction, et au dernier jour de la malédiction, le jour des colères, on le sacrifiait pour qu'il emporte dans le tombeau tous les mauvais présages. Et à ce moment-là, le vrai roi reprenait sa place sur le trône.
Oui, même on lui coud sur les habits des formules magiques, les présages pour qu'il soit...
Et tous les mauvais présages sont cousus sur ses vêtements afin que justement il les emporte bien avec lui. Ils sont bien sûrs que comme ça il va tout prendre avec lui.
Et on sait si c'est arrivé souvent cette cérémonie?
Alors de mémoire, je ne sais plus, pas très souvent, mais quand même une bonne dizaine de fois attestée. Il faudrait que je relise l'article en question, mais ils ont retrouvé des dates, oui.
On parle du roi de paille parce que donc le frère de ton héroïne, donc le fils du pharaon qui se retrouve vendu comme esclave à Babylone, c'est la bonne occasion pour le roi de Babylone de faire un mauvais coup à son rival, le pharaon d'Égypte, qui va donc sacrifier son fils.
C'est ça, effectivement, parce que les deux empires sont en guerre à la fois territoriale et économique. Ils se disputent, par exemple, le royaume de Jérusalem, hein, qui tombe aux mains des Égyptiens, ensuite retombe aux mains des Mésopotamiens, etc. Et effectivement, tout c'est une histoire de propagande. C'est-à-dire que Nabucodonosor voit dans ce moyen-là le moyen de prouver qu'il est plus puissant que son rival.
Oui, donc cette cérémonie du roi de paille, donc Nabucodonosor, est censée disparaître, sauf que de nouveau, tu glisses un petit caillou dans la chaussure de l'histoire, et là, ça va trébucher à nouveau, parce qu'il a un fils. Et là aussi, ce fils, c'est un peu comme les deux enfants du pharaon. C'est quelqu'un qui a envie de décider pour lui-même, et il ne veut pas se marier avec une jeune princesse de 12 ans, qui est un mariage diplomatique, parce que lui, il est véritablement amoureux d'une autre femme avec qui il a des enfants. Là aussi, j'ai trouvé ça assez, à la fois très gonflé, et assez fort d'avoir introduit ce personnage qui est lui qui va vraiment subvertir le système par rapport à ses deux collègues égyptiens.
Oui, tout à fait. Alors lui, effectivement, ça va très très loin. Je trouvais ça intéressant. On voit toujours ça du point de vue des femmes qui subissent des mariages forcés. Et en fait, ça peut de temps en temps faire aussi d'autres victimes. C'est-à-dire que les hommes ne sont pas forcément d'accord non plus pour épouser telle ou telle personne, surtout s'ils sont déjà amoureux par ailleurs. Lui, il va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il aurait pu consentir sans souci à ce mariage et simplement rester avec sa concubine. Bon, je ne raconte pas la suite de l'histoire, il va se passer quelque chose, mais en fait, comme lui aussi a une vision assez individuelle de la chose, il a simplement envie de faire ce qu'il veut et de se garder en quelque sorte pour sa famille et de ne pas rentrer dans le jeu diplomatique et dans le jeu du groupe auquel il appartient.
Oui, parce qu'il a envie que ses enfants règnent, lui succèdent. Or, s'il se marie avec cette fameuse princesse Med, ce sont les enfants de cette princesse qui deviendront ses héritiers. Ça, pour lui, c'est insupportable.
Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que il aurait pu laisser les choses se faire à condition que ses enfants adultérins, parce qu'effectivement, il ne va pas épouser la concubine. Elle ne rapporte rien au royaume, etc. Donc ces enfants-là, il aurait pu les laisser vivre leur vie. Mais le souci, c'est que son père lui a aussi inculqué l'envie de régner, l'a formé pour régner et lui a inculqué l'idée de dynastie. Et donc, à partir de là, il veut que ce soit ces enfants-là qui règnent et pas ceux qu'il pourrait avoir avec une jeune fille qu'il n'aime pas.
Il y a un quatrième personnage, moi, qui m'a beaucoup touché dans cet album. C'est le... Je ne sais plus son nom. Je ne sais même pas s'il a un nom, d'ailleurs. C'est l'espion qu'envoie Pharaon pour récupérer ses enfants.
Oui, c'est l'ombre.
C'est l'ombre.
Oui. Et ça, c'est son nom de code. En quelque sorte, ce sont les ombres du pharaon, qui sont donc les espions qui peuvent être envoyés aux quatre coins de la planète. Et effectivement, on se rend compte qu'il a une vie, enfin, il a un passé, il a quelque chose dont il ne parle quasiment pas. D'ailleurs, c'est des toutes petites touches que je mets dans l'album, histoire de lui donner une épaisseur, d'en faire un vrai personnage et pas juste un espion qui arrive à ses fins, etc. D'ailleurs, en tant qu'espion, je voulais aussi un personnage qui ne soit pas un espion traditionnel, qui sait se battre comme c'est pas permis, qui a les muscles qu'il faut, etc. C'est un petit jeune homme, pas très grand, qui ressemble, Dixit, la princesse Med, à un garçon d'écurie.
Oui, ce qui est...
Finalement, il se débrouille très bien et par ailleurs, il a une vie avant et il s'en ouvre par bribes à mon héroïne, la princesse Nace.
Moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que il a beaucoup de mal à mener sa mission à bien. C'est-à-dire que là
c'est difficile d'aller contraindre des princes et des princesses qui, d'habitude, se font toujours obéir au doigt et à l'œil et qui n'en font finalement qu'à leur tête. D'autant plus qu'ils ont décidé de mener leur vie et qu'ils n'ont absolument pas envie que quelqu'un vienne leur mettre des bâtons dans les roues.
Oui, sachant que cet espion risque sa tête s'il ne ramène pas les deux enfants royaux.
Exactement. Voilà, ça donne une petite pression supplémentaire.
Donc on va surtout pas raconter, dire s'il réussit ou pas, parce qu'il faut lire les deux albums. Moi, je voulais aussi te parler de ton dessin, parce que le dessin est totalement éblouissant. On est tout le temps dans des images très lumineuses, on est à chaque fois embarqué dans toutes les cases, on peut on peut plonger dans chaque case et ça raconte une histoire différente à chaque fois. On sent vraiment que tu as un immense plaisir à dessiner à la fois les paysages, les monuments de toute cette période. Il y a une sorte de jubilation dessinatoire, j'allais dire.
Bah, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup dessiner les monuments d'Égypte ancienne, les paysages, le Nil, etc. Enfin, j'ai l'impression... C'est ça qui est intéressant avec notre métier. C'est-à-dire qu'on peut recréer tout seul dans un petit atelier, sur un coin de table, toute une époque disparue, telle qu'on l'imagine dans la tête. Ça, c'est génial. Et par ailleurs, je suis allée quand même trois fois en Égypte et je tenais à montrer aux gens ce que je voyais dans ma tête après y être allée. C'est-à-dire qu'on imagine l'Égypte toujours avec du désert, on voit des cailloux dans un désert en quelque sorte, et puis de temps en temps une image avec le Nil et trois felouks et encore le désert. Et en fait, c'est pas ça l'Égypte seulement, c'est ça aussi, mais il y a de la verdure aussi, ça peut être très très vert. Y a des paysages qui sont des paysages de prairies, c'est magnifique. On a un vert intense et lumineux avec le bleu du ciel, avec l'ocre jaune du désert qui va un petit peu dans l'atmosphère aussi, c'est super beau. Les temples même, ils sont magnifiques parce qu'il y a encore pas mal de couleurs. Pour moi, l'Égypte, c'est ça aussi, c'est la couleur. Vous avez les temples égyptiens où il reste du vert, du bleu, du rouge, et ça aussi, j'avais besoin de le montrer. De montrer ce... Comment dire généralement, on voit souvent une iconographie égyptienne. Alors, pas au 19e, il y a eu des tableaux qui étaient assez rigolos, assez bien faits à ce niveau-là. Mais très souvent, aujourd'hui, il y a un petit côté marronasse. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Un peu sépia. Dès qu'on veut montrer l'Égypte ancienne, ou la Grèce antique, ou la Rome antique, c'est... Il y a du sépia, ce qui peut faire des ambiances très jolies. Mais moi, j'avais envie de montrer qu'à l'époque, il y avait des choses extrêmement lumineuses, vivantes. J'avais envie qu'on plonge dans une civilisation et dans un pays, dans deux pays, puisqu'il y a aussi la Mésopotamie, qui soient des choses vivantes et vibrantes du point de vue de la lumière.
Mais quand tu parles...
C'était un peu long.
Non, pas du tout. Et moi, je suis allé aussi plusieurs fois en Égypte et je retrouve exactement les mêmes sensations que quand je suis allé donc sur le Nil, dans le désert, enfin après au Caire et tout ça, mais surtout quand on va au sud de l'Égypte, j'ai retrouvé les mêmes sensations, et notamment la sensation que c'est dans ces endroits-là que tout a commencé, en fait. Voilà, qu'on a l'impression que la civilisation est sortie de cet endroit, ce qui est évidemment faux, mais j'ai retrouvé les mêmes sensations très, très physiques. C'est une chose qui m'a beaucoup touché. Et puis, comme tu le dis, il y a un travail de coloriste qui est très fin, qui est très précis. Comment tu choisis tes couleurs? Parce que je me suis posé la question en lisant les deux albums. Quelquefois, on est surpris du choix de couleurs. Qu'est-ce qui conduit tes choix? S'il n'y a pas forcément de raison, d'ailleurs.
C'est compliqué parce que c'est pas forcément des... Comment dire, j'y vais souvent à l'instinct. Après, de temps en temps, ça peut être en fonction de ce que raconte la scène. Mais effectivement, ce qui a guidé mes choix au niveau des paysages, en tout cas, c'était vraiment ce côté lumière que je tenais à montrer, même dans ces situations quelquefois assez dramatiques. Et par exemple, sur la fin du deuxième album, on va rien raconter, mais il y a une opposition que j'ai voulu entre le côté luxuriant et plein de couleurs et ce que ça raconte. Et là, effectivement, c'était volontaire. Voilà. Après, pour le reste, c'est un plaisir de le faire et je le fais. C'est pas que j'y pense pas, mais ça se fait. Voilà.
C'est naturel.
Mais en tout cas, merci pour les compliments.
Isabelle, je te remercie de cette demi-heure passée avec moi. On aurait pu parler encore du Roi de Paille pendant très très longtemps, mais le plus important, évidemment, c'est de les lire. Voilà. Parce que je redis à la fois l'histoire. Est merveilleuse pour tout ce qui concerne l'Égypte, qui concerne Babylone, mais c'est aussi un vrai récit d'aventure parce qu'il y a sans arrêt des rebondissements, il y a de l'amour, de la haine, de la bagarre, de la guerre, de la fuite, enfin il y a tout ce qu'il faut pour raconter une très très bonne histoire. Donc Le Roi de Paille, c'est deux volumes, c'est publié par les éditions d'Argo, ils font, je crois, 56 pages chacun, et ils sont au prix totalement dérisoire de 14 euros chaque, donc ça serait vraiment dommage de s'en priver. Alors, je te remercie, Isabelle.
Eh bien, merci en tout cas à la fois pour tous ces compliments et pour cette demi-heure où j'ai pu parler de ce que j'aime.
Ben, le problème, moi, c'est que j'invite que des gens que j'aime, donc... Je fais forcément des compliments, c'est ça le défaut de cette émission.
Mais ça fait plaisir quand même, on ne dira jamais assez. Faites des compliments aux auteurs, ça leur fait du bien.
À bientôt.
À bientôt, merci.
Bulle d'histoire. Hein ? Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh ! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.